Je sais pas si vous avez entendu l'entrevue la semaine dernière avec le conseiller Jean-François Leblanc et Michel Langevin concernant l'Assemblée de consultation publique, là. En fait, l'Assemblée publique de consultation sur le nouveau projet de règlement en matière de construction, en matière d'urbanisme. Bon, je vous élaborerai pas tout ça, mais à ce moment-là, M. Leblanc avait l'air un peu confus. D'une part, il disait « Ah oui, c'est modifiable », puis d'un autre côté, à la fin de l'entrevue, il dit « Non, 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 ça ne l'est plus trop ». Il était comme mélangé dans ses affaires, puis sur le terrain avec des journalistes, on en jasait, puis on se disait « Ben oui, il a l'air mélangé », ben visiblement pas trop, parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est que ce soir au conseil municipal, le nouveau projet pourrait être adopté, je dis bien « pourrait être ». Et là, écoutez, on ne demande pas juste là, de changer la grosseur des poignées de porte, là, c'est loin de là, là. On demande des modifications comme des toits verts, comme des entreprises ou des terrassements, ou appelez ça comme vous voudrez, ou du pavage. C'est plus le pavage traditionnel, c'est un autre type de pavage. Est-ce que les entreprises sont prêtes à ça? Est-ce qu'on est en règle avec les normes de construction? Est-ce qu'on est en règle avec les assurances aussi? Parce que c'est beau changer quelque chose, mais est-ce que ça va changer quelque chose à ton contrat d'assurance? Beaucoup de questions. Beaucoup peu de réponses. Et pour parler de tout ça, on va parler avec Sylvain Bertrand. Il est président de BBL Construction. Lui, il construit, il est habitué, il a vu les modifications au fil des années. Qu'est-ce qu'il en pense? On le retrouve au bout du fil. Monsieur Bertrand, bonjour.
Bonjour.
D'abord, ce règlement-là, vous êtes pour ou contre?
Je suis avec pour les buts qu'on cherche à obtenir ou à réaliser avec le règlement. Mais je suis contre la façon que le règlement est mis en application actuellement.
Pourquoi?
Parce que l'industrie de la construction n'est pas prête. Les ingénieurs, les professionnels, les architectes ne sont pas prêts. On a très peu été consultés. La façon qu'on fait de la planification de projet, un projet se planifie sur plusieurs mois. On parle de préparation de plan sur une période qui peut varier entre 6 et 8 mois et 12 mois. Donc, de dire qu'au mois de novembre, on met un règlement en application puis qui est en vigueur la journée même, très peu de temps après, ça a des impacts majeurs sur la réalisation de la planification de nos projets.
Parce que vous, il y a des projets qui ont été enclenchés septembre, octobre dernier, et puis là, ben, c'est dans la moulinette. Vous vous préparez peut-être à creuser la fondation au mois de mars prochain, mais là, vous devez mettre les freins, là.
C'est ce qu'on a fait actuellement. On a des projets qui sont prêts à être déposés. Les plans sont prêts pour la construction, mais on ne sait pas comment la réglementation va venir affecter ces projets-là.
Vous avez consulté qui? Tantôt, je parlais, bon, d'exemple, les assurances. Est-ce que c'est selon le code du bâtiment? Évidemment, le code du bâtiment, il évolue à toutes les années. Ça, vous le savez, quand c'est pas l'électricité, c'est la plomberie qui change. Puis quand c'est pas la plomberie, ben c'est la charpente ou peu importe. Mais avez-vous consulté là, des spécialistes, des ingénieurs pour vous aiguiller avec ce nouveau règlement-là?
Définitivement, chez BBL, on a la chance d'avoir un projet de toit vert qui est en préparation pour construction ou 120 portages. Donc, c'est un toit vert qui n'est pas couvert par la réglementation. Donc, c'était fait de base volontaire par notre client. Puis on s'est rendu compte que on est loin d'être prêt pour faire des toits verts. Qu'est-ce que je veux dire par là? La technologie, elle existe. Il y a des gens qui sont prêts à Toronto. Beaucoup d'offres de services à Toronto. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est très, très dense. Mm-hmm. La valeur des terrains est très élevée. Puis, l'obligation de faire de la rétention d'eau, elle existe. Donc, le toit sert souvent pour faire de la rétention d'eau. Et le problème qu'on a, c'est qu'avec la CCQ et les règles qu'on a, c'est qu'on ne peut pas prendre les gens de Toronto et les amener au Québec s'ils sont pas, ils ont pas les licences de la régie du bâtiment, puis les cartes de compétences pour être capable de travailler sur les toitures. Donc, on a des problèmes au niveau de l'exécution de ces toits-là.
C'est pas réalisable.
Pas à court terme. Et quand, tantôt, vous parliez du code de bâtiment, il change de façon régulière. Ce qu'on a, quand on a des changements au code de bâtiment, on a des périodes d'adoption qui varient de 2 à 3 ans.
Mais là, dans ce cas-là, ce ne serait pas le cas, ce serait demain matin.
C'est déjà en vigueur, donc c'est hier plus que demain matin. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument qu'on change la façon que le règlement est mis en place, donner une période d'adaptation.
Un toit vert, parce qu'on va prendre cet exemple-là, ça va être plus simple pour monsieur, madame, tout le monde. Ça l'implique qui et ça l'implique quoi? Bon, évidemment, si on retient l'eau, il faut s'assurer que la toiture ne soit pas trop poreuse. Là. Est-ce qu'il y a des conséquences sur les matériaux, sur le type d'incendie? Le bardeau d'asphalte qu'on a aujourd'hui, il prend feu pas mal moins vite qu'il y a 30 ans. Est-ce qu'on doit s'assurer aussi des normes en matière de normes d'incendie? Donc, qu'est-ce que ça implique, un toit vert, si on fait le tour de la question avec le tour des spécialistes?
Okay, au niveau de notre toit vert, la planification importante, la première, est le poids. Le poids de notre toit vert qui retient de l'eau fait en sorte que les exigences au niveau de la structure sont beaucoup plus imposantes. Souvent, en termes de capacité structurale, on va parler de poids au pied carré. Mm-hmm. Un bâtiment standard d'un commercial va souvent exiger un 50 livres au pied carré. Dans notre projet sur portage, la structure qui est exigée a une capacité de 125 livres au pied carré.
Ma foi du bon Dieu, c'est deux fois et demi.
Oui, c'est très, très imposant. Quand on parle de ces poids-là, il faut qu'on modifie la structure et les fondations. Donc, il faut qu'on retourne jusque dans le sol. Puis quand on planifie un projet, on a des études géotechniques qui nous disent quelles sont les capacités portantes des sols. Et quand on planifie un projet, il faut qu'on dise à nos ingénieurs d'avance, avant de faire nos études géotechniques, qu'est-ce qu'on doit préparer comme planification de projet. Les études géotechniques sont faites en amont de la préparation des plans de structure parce que les ingénieurs de structure ont besoin d'informations géotechniques pour être capables de préparer le plan. Donc, souvent, c'est un processus qui est très long avant d'être capable d'avoir un plan qui est prêt à être exécuté. De dire que demain matin, on met un toit vert en place, c'est peu réalisable. Ça, c'est la première des composantes.
Oui.
La deuxième, c'est au niveau des membranes.
Mm-hmm.
Les membranes de toiture. C'est certain que si on a des racines qui poussent sur un toit, il faut qu'on ait des membranes anti-racines. Il faut que tous les matériaux qui sont au toit soient des matériaux qui sont différents des toitures conventionnelles qu'on a. Dans le commercial, on ne parle pas de bardeaux. On va parler de toiture à membrane élastomère, en TPO qu'on appelle, ou en EPDM. C'est trois types de toitures qu'on a régulièrement. Les toitures blanches que le règlement demande, dans l'industrie de la construction, c'est rendu la norme. Pourquoi? Parce que les bâtiments LEED de 10-15 ans qui exigeaient ces nouveautés-là,
mm-hmm,
ont fait que le marché s'est développé puis l'offre de service est présente. Donc, c'est très facile de faire une toiture blanche. Chez BBL, c'est la norme de faire une toiture blanche et l'exception de faire une toiture noire.
Je comprends.
Donc, la Ville aujourd'hui demande la portion de faire des toitures qui sont la norme dans l'industrie. Fait qu'est-ce que la réglementation vient imposer quelque chose? Tant qu'à moi, ça ne vient pas imposer. C'est une bonne pratique.
Mm-hmm.
Le troisième point, c'est au niveau réglementaire. La toiture verte est considérée comme combustible actuellement.
Okay.
Donc, quand on planifie une toiture verte, la Régie du bâtiment nous demande de consulter nos services d'incendie.
Oh.
On l'a fait au 120 portages.
Ouais, pis...
Les services d'incendie ne sont pas prêts à être capables de nous répondre à cet effet-là.
Attendez un peu, là. Le service de pompiers de Gatineau n'est pas au courant, n'est pas en mesure de vous divulguer de l'information sur un règlement qui est adopté par la Ville.
Vous avez raison.
Aïe, aïe.
Dans certains cas, je vais même plus loin. Le Code du bâtiment nous interdit d'installer des matériaux combustibles et passer certaines grandeurs de bâtiment. Donc, dans certains cas, on aurait un bâtiment comme de 50, 60, 100 mètres pieds carrés.
Oui.
Le code nous oblige de construire de façon incombustible. Donc, on ne pourrait pas, en vertu du code, installer une toiture verte sur ce genre de construction-là.
Donc, la Ville vous dit 50 000 pieds carrés, tu mets un toit vert avec des matériaux combustibles, puis le code du bâtiment te dit le contraire. Donc, peu importe ce que tu fasses, tu es dans la boîte.
Oui. Puis, on est dans l'incertitude. Est-ce que la Ville de Gatineau est allée chercher des mesures d'équivalence avec la Régie du bâtiment? On n'est pas au courant.
Aïe, aïe.
C'est des mesures qui existent, là. Certaines villes l'ont fait, là. Est-ce que Gatineau a fait ses devoirs? Je suis pas au courant.
Puis là, on n'a même pas parlé des assurances, parce qu'un coup tout ça réglé, il faut assurer. Vous, comme constructeur, vous devez avoir des assurances. Mettons que le toit s'effondre, ben, vous n'allez pas payer ça avec votre petite caisse. Là. Vous devez avoir des assurances. Donc, vos assurances vont vous questionner. Le propriétaire du bâtiment va se faire questionner aussi là-dessus. Dans le fond, on arrive encore là dans un cul-de-sac.
Ben oui, puis j'irais même plus loin. Dans certains cas, on ne veut pas avoir de toiture verte. Pourquoi? Dans certains cas, je vais prendre deux exemples qui me viennent à l'idée rapidement. Les archives nationales qu'on est en train de bâtir.
Oui.
Est-ce qu'on veut protéger nos archives avec en installant une toiture verte par-dessus? Okay. C'est une belle question à se poser.
Oui, elle mérite d'être posée.
Absolument. Le deuxième, ça, c'est un projet qui est déjà en construction, donc techniquement, ça ne s'appliquera pas à ce bâtiment-là. Un exemple que moi, je suis en train de planifier, c'est un centre de données pour Gatineau. Les exigences du centre de données nous ont demandé de déplacer nos drains de toit pour ne pas avoir aucun drain de toit, aucune eau au-dessus des cabinets d'ordinateur.
Oui.
Là, vous allez me dire qu'il faut que j'aille installer une toiture verte par-dessus ce genre de bâtiment-là.
Qui va retenir l'eau à grandeur.
Oui.
Ça marche pas, là.
J'ai de la misère.
Oui, monsieur.
Puis, écoutez-moi bien, là. Ce qui est important que les gens réalisent, c'est qu'on est loin d'être contre. Ce qu'on dit, c'est que la même recette ne peut s'appliquer à tous les projets. Ce qu'on offre, nous autres, dans notre approche, c'est donnez-nous une brochette d'options pour aller dans la direction que la ville veut aller.
Parce que vous, là, vous allez être, permettez-moi l'expression, squeezé. Vous allez être la deuxième tranche dans le milieu du club sandwich, effoiré entre les assurances, les pompiers, la ville, la CCQ ou la peu importe, la PCHQ ou peu importe l'organisation provinciale. Vous êtes pris entre tout ça puis vous allez être paralysé. C'est ça qui va se passer.
Ça a déjà commencé, là. On retient des projets actuellement qu'on est supposé creuser à fin février, ne sachant pas comment on va mettre tout ça en place.
Ouais. Je veux pas... dernière question, M. Bertrand, là, puis vous êtes bien gentil pour votre temps, c'est apprécié, puis je veux pas vous mettre sur un siège chauffant, mais disons que les projets que vous avez retardés, là, si on additionne tout ça, là, on est dans les millions, dans les dizaines de millions, on tourne autour de combien à peu près? Là?
On est dans les dizaines de millions. Puis le plus inquiétant dans ça, c'est la question économique. Qui paye? Moi, j'ai des offres de location de bâtiments qui sont signées, des contrats de construction qui sont signés. Ça ne prévoyait pas ce genre de coût-là. Donc, ça va sortir de mon portefeuille? C'est une bonne question. Puis tous les gens doivent se la poser, cette question-là. On a un appel d'offres actuellement avec le centre des quatre glaces ou des trois glaces.
Ouais.
Qui va payer le toit vert qui va être exigé sur la future aréna? Les citoyens? Mm-hmm. Est-ce qu'on sait quel coût ça va représenter? Est-ce qu'on veut retarder le développement de Gatineau avec un genre de règlement comme ça? Faire peur aux gens qui veulent venir investir à Gatineau? D'un côté, on dit, pourquoi Gatineau? On essaie d'attirer des entreprises ici. Et de l'autre côté, on lui fait peur. Moi, ce que je dis, c'est travaillons ensemble pour développer un règlement qui va être gérable, prévisible, puis qui va aller plus loin que ce qui s'attend.
Merci, M. Bertrand. C'est vraiment apprécié. Je vous souhaite une bonne journée.
Bienvenue.
Sylvain Bertrand, il est le président de BBL Construction.